C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Stendhal, 1783-1842. Écrivain, athée, hétérosexuel, politique, gauche. Œuvre, Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827, roman, 1827, sans nom d'auteur. Stendhal ne signant qu'un avant-propos où il dit avoir corrigé le texte supposément composé par une femme d'esprit. En 1828, sous son nom, personnage, Octave de Malivert. Stendhal avait tellement de talent que même ses livres à intention, écrits avec l'idée qu'un sujet malin lui ferait trouver un public, sont admirables. Et son premier roman, Armance, mieux qu'admirable, est aimable. C'est même un de ses meilleurs livres. Avec une modestie qui le prenait souvent et qui était aussi une forme d'esprit, Stendhal lui a donné un sous-titre légèrement minorant, quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Armance est bien plus que cela, de même que Le Rouge et le Noir est bien plus que son sous-titre de Chronique du XIXe siècle. Ce roman contient un des personnages les plus adorables qui soit, le jeune Octave de Malivert. Stendhal avait beaucoup d'affection pour les jeunes hommes avec leurs élans, leur intransigeance, leur maladresse, leur amour. Comme toujours chez Stendhal, l'histoire se passe chez l'ennemi. Ici, une famille royaliste qui a émigré sous la Révolution alors que leur fils, le personnage principal, est républicain. Dans Armance, l'ennemi se trouve aussi à l'intérieur du personnage, cet Octave qui a 20 ans, est fatal comme un personnage de Shakespeare et qui, comme un personnage de Shakespeare, semble comploter pour son propre malheur. Bonheur, Stendhal, oui, je veux bien. Bonheur, bonheur, il n'aurait que ce mot à la bouche. Mais ce que dit Stendhal ressortit souvent à la projection plutôt qu'à la déduction. Armance, qui devrait s'appeler Octave, car c'est lui le personnage central, est le roman de la douleur. Le mot est partout. Octave souffre. On pourrait penser que c'est parce qu'il est impuissant. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le roman de l'impuissance, je crois que c'est plutôt le roman du mal-être. Qui est Octave de Malivert? Pour en parler, à l'occasion de la 100e émission de Personnages en personne, je reçois Jean-Jacques Labia, professeur émérite de littérature à l'Université de Nanterre et éditeur d'Armance dans l'édition GF chez Flammarion. Jean-Jacques Labia, à quoi ressemble cet Octave de Malivert qui a donc 20 ans à Paris au moment de son aventure?
Il est frais et moulu de l'école polytechnique. Et il est sur un seuil qu'il ne peut pas franchir, puisque son père lui interdit d'entrer, en quelque sorte, dans la vie active. Le premier chapitre nous donne une description qui rappelle le roman fashionable anglais, comme par exemple Vivian Grey de Disraeli. Beaucoup d'esprit, une taille élevée, des manières nobles, de grands yeux noirs, les plus beaux du monde, aurait marqué la place d'Octave parmi les jeunes gens les plus distingués de la société si quelque chose de sombre, empreint dans ses yeux si doux, n'eût porté à le plaindre plus qu'à l'envier. Les éléments de description physique sont relativement discrets et ils interviennent parfois un petit peu plus loin dans le roman. Par exemple, nous connaissons la couleur de ses cheveux. Il a de belles boucles blondes, de grosses boucles blondes qui tombent sur un front noble, élevé. Le portrait physique est en réalité tout de suite un portrait moral. Et on peut penser à la formule de Spinoza, « Mens et corpus una et adem res », l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Et en réalité, les éléments descriptifs qui caractérisent le personnage sont tout de suite chargés au fond de psychologie.
En même temps, tous les personnages de Stendhal sont beaux. Il ne leur arrive pas les mêmes choses. Donc il y a aussi les conditions dans lesquelles ils vivent. Et je voudrais d'ailleurs que vous nous expliquiez succinctement, parce que le roman est parfois un peu compliqué à résumer, ce qui arrive comme aventure à Octave.
Ce qui lui arrive, c'est qu'en réalité, dès le deuxième chapitre, il est soumis, comme toute sa famille, à un coup de théâtre. Ce coup de théâtre devrait être un coup de théâtre heureux, puisqu'il appartient à une famille aristocratique désargentée à la suite de la Révolution, et que, miraculeusement, à travers un miracle tout à fait politique, donc est votée une loi dite d'indemnité, dont Stendhal d'ailleurs parle aussi dans son activité journalistique ou de courriériste pour ce qu'on appelle le courrier anglais, c'est la fameuse histoire du miracle, du milliard plutôt, des immigrés. Mais bon, mon lapsus est significatif, c'est un miracle pour la famille d'Octave de Malivert, puisque tout d'un coup, ce fils unique va devenir un fils à marier. Et c'est bien là tout le problème, puisque pour Octave, il y a quelque chose qui recule devant l'idée du mariage.
Et alors, dans sa famille, il y a quelqu'un, donc il y a monsieur et madame de Malivert, ses parents, et puis il y a cette jeune Armance, qui est une d'origine russe.
Armance de Zoïlov. Armance de Zoïlov, qui elle-même est une cousine et une parente, mais une parente pauvre, et qui donc a un statut social dévalué, et qui passe aux yeux de la bonne société pour une dame de compagnie, une demoiselle de compagnie, plutôt de madame de Malivert, mère, donc qui vit au fond au crochet et aux dépens de cette famille, et qui donc n'a pas de statut social qui lui permettrait elle-même d'espérer un mariage. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une sorte de double bang économique, si j'ose dire, puisque dans le cas d'Armance de Zoïlov, elle-même va devenir une héritière. Mais elle va devenir une héritière dans un contexte dont nous parlerons peut-être plus tard, qui est un contexte politique, puisque c'est à l'occasion de la mort de ses oncles, qui ne sont pas des oncles d'Amérique, qui sont des oncles de Russie, mais qui ont la même fonction que les oncles d'Amérique d'habitude dans les intrigues.
Alors ça arrivera beaucoup plus tard dans l'intrigue. En attendant, se noue une histoire d'amour un peu confuse et inexprimée au départ entre Octave et Armance.
Oui, il y a une sorte d'amitié et une sorte d'effet de miroir, parce qu'en réalité, au fond, le masculin et le féminin, incarnés par Octave d'un côté et par Armance de l'autre, se trouvent dans une sorte de gémellité de caractère. Tous les deux, finalement, au fond, ont tendance à la sécession. Et en ce sens, ce sont des personnages bien stendhaliens, en réalité.
Alors, il y a une chose d'ailleurs à ce sujet qui est très frappante, c'est que comme souvent chez Stendhal, le personnage d'Octave est, comme Julien Sorel par exemple, Octave est critiqué parce que c'est un lecteur. Il lit et la lecture est un acte dangereux chez Stendhal, et surtout que Octave a des lectures particulières dans son milieu.
Bien sûr, c'est surtout sa mère qui s'inquiète pour lui, parce qu'il lit ce qu'elle appelle les mauvais livres. Les mauvais livres sont évidemment les livres principalement du XVIIIe siècle, les livres liés à ces idées qui ont inspiré la Révolution, cette Révolution qui finalement a mis en danger le statut de l'aristocratie. Ce sont des livres caractéristiques des Lumières, c'est-à-dire ce sont d'ailleurs les livres qui ont nourri l'éducation et la pensée de l'auteur, Stendhal lui-même.
Bien sûr. Alors, Octave ne fait rien pour chercher à plaire. Il a aussi cette autre caractéristique de la plupart des héros de Stendhal, c'est qu'il ne sait pas être hypocrite. Il sait mal dissimuler, il joue assez mal la comédie sociale.
Oui, et à son sujet, il y a un leitmotiv qui revient et qui est présenté, qui est un élément du portrait du début d'ailleurs, dès la deuxième page du roman, qui est la notion de devoir. Et cette notion est assez curieuse parce que on verra qu'elle apparaîtra comme une sorte d'obstacle à l'amour à un moment donné. Et ici, c'est assez curieux parce que finalement, on retrouve l'une des sources avouées, l'un des modèles romanesques de Stendhal, c'est la princesse de Clèves. Simplement, pour la princesse de Clèves, le devoir a un visage très précis. Le devoir est celui de la femme mariée et qui ne veut pas être tentée ou se laisser aller à l'adultère. Dans le cas d'Octave, cette notion de devoir devient curieusement abstraite. Et justement, elle peut sembler être le masque de quelque chose, peut être liée à ce que plus tard on pourra appeler son secret.
Son secret, en effet. Et avant de découvrir son secret, qu'on ne découvrira d'ailleurs pas, parce que je parlais d'impuissance, mais le mot n'est jamais écrit et n'est jamais prononcé, nous arriverons à la fin à une lettre d'Octave qui dira simplement à Armance « Je suis un monstre », mais on n'en saura rien de plus. En attendant, ce qu'il a de très frappant, c'est qu'il est plus que triste, accablé. On dirait qu'il est, comme par avance, désespéré par un avenir qu'il semble apercevoir et qui semble apercevoir très noir. Et en même temps, il est très dissimulateur. Une phrase du roman est, lui prête une profondeur de dissimulation incroyable à cet âge.
En même temps, il est dans une sorte de malaise qui est incarné par sa position même physique dans la maison, dans l'hôtel qu'il habite avec ses parents. C'est-à-dire que sa chambre a en fait été sacrifiée à la hauteur du salon au-dessus duquel elle se trouve, et il est comme écrasé. Et d'ailleurs, dès qu'il est question pour lui de devenir riche, le premier emploi qu'il songe à faire de cet argent, c'est d'avoir pour lui-même un salon avec un plafond élevé et ces fameuses glaces de Saint-Gobain.
Alors, on nous dit, on ne va pas raconter encore une fois tout le détail des aventures parce que l'histoire est assez compliquée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Stendhal, qui faisait l'apologie du naturel en permanence, n'écrivait que des romans, et je le dis en plus grand bien, car les romans sont l'artifice même, écrivait des romans très artificiels. Et ça, c'est un roman presque théâtral d'ailleurs, par ses rebondissements. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bien sûr, mais il s'en moque lui-même. Par exemple, à un moment donné, lorsque ça va trop bien pour Octave et Armance, c'est-à-dire lorsque les personnages qui leur sont hostiles, notamment le fameux commandeur de Soubirane, donc pensent que le mariage est à l'horizon, qu'il va se faire, que les héros s'entendent trop bien, il invente, ou plutôt l'un de ses complices, l'aide à inventer une histoire de lettres forgées. Et c'est un artifice qui est présenté par le roman lui-même comme un artifice éculé,
oui.
Et qui est d'ailleurs emprunté à un très mauvais roman que le manipulateur s'est arrangé pour relier justement pour attirer l'attention du commandeur de Soubirane, qui lui alors n'est pas du tout un lecteur et qui ne s'intéresse qu'aux reliures. Donc pour lui faire ouvrir l'ouvrage, il faut d'abord qu'il soit relié richement. Et à l'intérieur de l'ouvrage, il y a cette idée biscornue d'une lettre forgée, imitée.
Alors, il y a une chose très intéressante dans le personnage d'Octave, c'est qu'il est plein de mystères, y compris pour nous, le lecteur. Par exemple, on le voit revenir un matin un peu blessé de quelques coups de sabre, d'une nuit où il avait disparu, et on ne sait pas et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'un lecteur devrait tout savoir d'un personnage ? Est-ce qu'on sait tout des gens dans la vie ?
En même temps, on sait maintenant que c'est une allusion très précise, en fait, à une mésaventure qui est arrivée à Custine. Et justement, c'est l'un des indices que Stendhal a disposé concernant le secret d'Octave. Le secret d'Octave qui, dans ce cas, pourrait être autre chose que l'impuissance, puisque au XIXe siècle, à cette époque, pour des raisons morales, l'impuissance servait aussi de masque à l'homosexualité, finalement, à toute difficulté amoureuse. Et en réalité, il y a un fait divers de 1824 qui était parfaitement connu, et aux dépens d'Astolphe de Custine, d'ailleurs, par ailleurs, ami de Stendhal, et grand lecteur de Stendhal, et grand admirateur de Rouge et Noir, par exemple. Et donc, Astolphe de Custine s'était trouvé, à un moment donné, rossé par des soldats, après avoir fait des propositions à l'un d'entre eux, dans un rendez-vous du côté de Saint-Denis, et il était rentré chez lui en très mauvais état.
Oui, bien sûr, mais ça, voilà. C'est une induction que vous faites, et vous avez tout à fait le droit de la faire, mais en même temps, Stendhal peut aussi prendre un événement de la vie de Custine et le transporter sans que toutes les caractéristiques de Custine soient celles d'Octave, n'est-ce
bien
pas ?
Bien sûr. Simplement, le secret d'Octave devient un foyer de questions. Il n'y a pas de réponse. Et justement, je crois qu'il a plaisir à superposer différentes interprétations possibles sur la difficulté d'être d'Octave sur le plan amoureux.
En tout cas, lui le dit et l'écrit positivement à au moins deux correspondants. Il emploie le mot d'impuissance dans l'un des deux, et dans l'autre cas, il emploie un mot latin comme il faisait parfois. Il employait des mots autres que français. Il dit impotence. Et cette impuissance est peut-être le sujet caché, mais au fond, c'est une cause, et comme toujours, les causes n'ont pas une importance aussi cruciale que ça dans les romans. Ce qui est important, c'est les comportements. Et le comportement d'Octave, il est comme Achille dans Homère, il est coléreux, il a une colère en lui.
Oui, il est sujet à des accès de violence. Et il y a une sorte de nosographie, enfin il y a toute une série de symptômes dont certains ont été directement pris par Stendhal dans Pinel, par exemple.
Oui, on sait qu'il a lu
l'Alieniste. Ah, complètement.
Comment le sait-on, d'ailleurs?
Parce que on a la trace de ses lectures dans ses journaux et dans ses bibliothèques.
Pinel était le médecin aliéniste de...
Binel est connu pour avoir été l'un des premiers aliénistes modernes, c'est-à-dire en ayant essayé justement de faire sortir les aliénés d'une condition purement carcérale, violemment carcérale.
Et il a écrit un traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, c'est ça ?
Tout à fait. Je cite dans la préface de cette édition un passage qui décrit la manie en des termes qui reflètent tout à fait cette scène qui est à l'arrière-plan dans la mythologie du personnage d'Octave, c'est-à-dire ce moment où il a jeté par la fenêtre un serviteur. Et ça illustre tout à fait l'attitude du maniaque décrit par Pinel, le maniaque qui s'attaque volontiers à des personnages de basse condition.
Et en même temps, Octave, après, se repent et fait, comme parfois les gens qui ont mal agi, fait au contraire des choses d'une excessive gentillesse envers ce domestique.
Ah ben, après, il devient le serviteur de ce domestique. Il le couvre de cadeaux, d'argent, avec une espèce d'excès.
Est-ce que c'est une forme d'hypocrisie de la part des maniaques ou d'Octave, en tout cas, une façon pour lui de s'excuser ou de croire s'excuser ?
Non. Je crois que c'est une manière de rendre compte de cette sorte d'absence à un moment donné de libre arbitre qui fait que la pulsion ne peut pas être contrôlée. Et au fond, le caractère qui en lui-même n'est pas mauvais, n'est pas agressif, regrette ces actes qui ont été accomplis, au fond, sans le secours de la volonté ou sans le...
À ceci près que Stendhal dit en passant que Octave est méchant ou qu'on le juge méchant, mais est-il méchant ou mécontent de lui-même ?
Là, je pense qu'il faut penser, il faut songer à un autre modèle très important qui est celui de Byron, pour toutes sortes de raisons. Parce que Byron était caractérisé par la transgression. Dans le domaine notamment de la sexualité, il y avait à la fois sa relation supposée, sa relation amoureuse avec sa demi-sœur, mais surtout la bisexualité.
Bien sûr.
Et Stendhal était très curieux dans ce domaine. Et d'autre part, Byron, pour lui, est victime, au fond, du même mal du siècle qu'Octave de Malivert, dans la mesure où c'est un aristocrate libéral, un aristocrate... Au fond, Octave est un jacobin, un aristocrate
bien
jacobin.
Sûr.
Et Byron, on sait qu'il était lui-même très opposé, finalement, au conservatisme anglais.
Et lui aussi, de ce qu'on appelle mauvais caractère.
Absolument. Sujet aussi à des actes de violence.
Nous allons maintenant entendre une ariette par un compositeur dont Stendhal a raffolé et sur qui il a écrit, Rossini. C'est une ariette d'amour, La Promesse, chantée par Renata Tebaldi en 1956. Jean-Jacques Labia, le personnage d'Octave dans l'Armance de Stendhal, est, nous l'avons dit tout à l'heure, sujet à des foucades, coléreux, susceptible aussi. Et en même temps, c'est un grand délicat. De même que Armance, dont il est amoureux, ni l'un ni l'autre ne se disent clairement les choses pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est un roman qui ne dit pas les choses, Armance, puisque aussi bien le mot impuissance n'est jamais prononcé.
C'est un roman pudique, extrêmement pudique. Et en ce sens, il s'inspire de nouveau de La Princesse de Clèves, de ce côté-là. C'est un roman extrêmement réservé dans le comportement des personnages qui osent de temps en temps baiser la main. Mais bon, ça ne va guère plus loin dans le domaine physique entre eux.
En même temps, pour revenir au sujet de l'impuissance, puisque à la fin, on suppose que Octave abandonne tout parce qu'il considère être un monstre et que cette monstruosité est l'impuissance, c'était un sujet qui était excessivement difficile à traiter à l'époque. Enfin, on en parlait beaucoup, mais à cause des questions presque religieuses, parce que Voilà, les hommes avaient une obligation de procréation et il y avait eu beaucoup de procès durant l'Ancien Régime. Enfin, tout ça est très, très connu, mais on en parlait de manière quasi médicale et de manière romanesque. Un personnage d'impuissant est une chose qui existait assez peu et qui d'ailleurs existe encore assez peu. Après Stendhal, il y a eu le roman de Brancati, Le bel Antonio, mais il n'y a pas eu beaucoup de... C'est un sujet délicat à traiter.
La comtesse aux pieds nus.
La comtesse aux pieds nus, mais je parle de roman.
Oui, oui, mais le cinéma, d'une certaine manière, a pris aussi le relais du roman. Il se trouve que là, il y avait une actualité à la fois mondaine et littéraire, dans la mesure où Claire de Duras, qui était une dame de l'aristocratie, s'était spécialisée dans l'écriture de petits romans sur les impossibilités amoureuses. Donc elle en avait écrit un, Ourika, où le préjugé était un préjugé racial, puisque la jeune femme était noire. Elle avait écrit ensuite un autre roman qui s'appelait Édouard, où cette fois-ci, c'était une question de rang social. C'est-à-dire, c'était un personnage qui n'était pas... qui avait une condition sociale qui ne lui permettait pas d'être amoureux d'une aristocrate. Et, alors, ces deux romans ont été publiés sans nom d'auteur, mais on savait qu'ils étaient de Claire de Duras. Claire de Duras avait une fille qui s'appelait Clara. Et cette fille avait fait l'objet d'un projet de mariage avec Custine. Et ce mariage n'avait pas pu avoir lieu. Et elle s'est toujours demandé pourquoi. Et pour creuser, si j'ose dire, cette question, elle avait écrit un roman qui s'appelle Olivier ou le secret. Mais comme ce roman était encore plus transgressif par son sujet que les romans précédents, ce roman a simplement été en partie lu dans des salons. Stendhal ne l'a pas connu, mais un très bon ami de Stendhal, qui était Latouche, polygraphe, écrivain, romancier, journaliste, avait écrit un Olivier et a publié un Olivier qui se présentait physiquement chez le même éditeur, sans nom d'auteur, comme les précédents, et qui voulait se faire passer pour l'Olivier de Madame de Duras. Et il se trouve que Stendhal, qui connaissait très bien l'affaire, a prétendu dans un premier temps que cet Olivier était authentiquement le roman de Madame de Duras. Et ça lui a donné l'idée d'un deuxième rebond, si j'ose dire, d'écrire lui-même sa propre version. Mais évidemment, Armance a dépassé de très loin l'intérêt du roman de Latouche, qu'on peut lire facilement sur Gallica, par exemple, hein, et qui est une sorte de... C'est bien écrit, mais enfin, c'est un roman léger. C'est une sorte de pochade, uniquement sentimentale. Il n'y a pas tout... Parce que nous n'avons pas parlé du tout du contexte politique, mais il n'y a pas du tout cette sorte d'inscription dans l'histoire immédiate qu'on va trouver chez Stendhal et qui préfigure Le Rouge et Noir.
Et justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que s'il y a une impuissance dans le livre, c'est aussi une impuissance politique de tout le milieu d'Octave de Malivert, pour commencer. C'est une famille royaliste, nous l'avons dit, qui a perdu beaucoup d'argent. Octave lui-même, même quand il devient riche et bon à marier, si je puis dire, se trouve désemparé dans la société. Il y a une impuissance politique dans tout le milieu d'Octave.
Oui, impuissance à laquelle, en tant que polytechnicien, en tant que jeune homme moderne, il voudrait parfaitement dépasser. Il le pense même pas forcément à quelque chose de très glorieux dans le domaine professionnel, exercer une activité de chimiste quelque part. Et il nous est montré comme une sorte de polytechnicien empêché, mais qui tout de même est capable, par exemple, de faire un devis pour ce fameux salon, ces fameuses glaces. Et de temps en temps, il fait aussi un devis dans d'autres domaines. Par exemple, il calcule, comme dit le roman, la somme des marches qu'il aurait à faire pour séduire Madame d'Aumale. Et puis il se dit qu'après tout, le rapport qualité-prix lui permet de faire ça sans difficulté. Et donc, il entre dans la société de Madame d'Aumale, mais après avoir s'être livré à cette sorte de calcul qui est bien dans, au fond, sa mentalité d'ingénieur. Parce que, comme beaucoup d'amis de Stendhal, comme Stendhal aurait pu lui-même...
Oui, puisqu'il a préparé Polytechnique.
Voilà. Il est venu à Paris, en principe, pour passer le concours de Polytechnique, et il a préféré prendre la tangente.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, Stendhal, Octave, est empêché politiquement comme il l'est sexuellement, parce que finalement, il ne va pas très loin.
Et empêché professionnellement.
Professionnellement aussi.
Parce qu'il voudrait se rendre utile. Enfin, bon, il n'est pas saint-simonien, mais néanmoins, il pense que... il a un devoir simplement humain et qui n'est pas du tout lié à son identité d'aristocrate, cette fois-là, qui est simplement lié à son humanité profonde, personnelle.
Bien sûr. Vous citiez quelque chose d'amusant à l'instant, Jean-Jacques Labien. Il faudrait aussi dire, je crois, que Armance est aussi un des romans les plus drôles de Stendhal. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans ce
plein
livre.
D'humour.
Plein d'humour.
Toutes sortes d'humour, de l'humour noir, mais aussi une sorte de légèreté. Une sorte de légèreté à certains moments.
Et même, il fait une chose, il y a un passage que je ne lirai pas parce qu'il est un peu long, où Stendhal, où le narrateur décrit les pensées d'Octave, et juste après, il y a un commentaire où il se fiche de son personnage. Et ça, c'est une chose excessivement rare. En général, on peut se moquer, un narrateur peut se moquer de personnages annexes, mais pas du personnage principal.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais Octave est capable de se moquer de lui-même, je pense aussi. Il a suffisamment de recul par rapport à lui-même dans ces moments.
Vous trouvez, c'est pas plutôt des sarcasmes un peu blessés qu'il a sur lui-même? Il est avec son côté hautain, comme ça, vous diriez qu'il a de l'humour envers lui-même?
En fond,
il prend les choses tellement au grave, tellement.
Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En réalité, il faut penser aussi à la structure du roman, parce que Stendhal, au fond, a construit son roman sur le modèle de la tragédie, d'une certaine manière. Au fond, Octave est victime de sa passion. Et son modèle avoué est Didon, puisque Octave lui-même cite Didon qui parle de son propre destin en disant que Vixi, j'ai vécu et voilà, j'accomplis mon destin. Et lui-même accomplit son destin en partant pour la Grèce et puis en se suicidant. Comme d'ailleurs le héros de Madame de Duras, dont Stendhal n'a pas lu le roman. Le héros de Madame Duras, lui, c'est un coup de pistolet dans un parc.
Et c'est d'ailleurs, ça donne lieu à une belle phrase de Stendhal sur la beauté d'Octave, presque à la fin, où il dit que, si je me rappelle bien, que les matelots qui récupèrent le cadavre le trouvèrent excessivement beau.
C'est une image byronienne. Encore une fois, une image tout à fait inspirée par le donjon de Byron.
Jean-Jacques Labia, que vous a appris le personnage d'Octave de Malivert?
Il m'a attiré vers d'autres auteurs qui sont aussi des auteurs aventureux. C'est-à-dire que quand Stendhal se lance dans l'écriture d'Armance, au fond, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et ça me faisait penser notamment à Italo Calvino, l'écrivain italien, qui était un des grands admirateurs, grand lecteur, fin lecteur de Stendhal au XXe siècle, qui disait, et je pense qu'il songeait à Stendhal, il disait que il aurait dû écrire chacun de ses livres sous un pseudonyme différent. Parce qu'au fond, pour lui, chaque écriture, chaque projet d'écriture était un projet aventureux et un projet nouveau. Et il ne savait pas, finalement, en commençant, jusqu'où il irait, même comment il atteindrait son but. Et donc, ça m'a attiré vers des auteurs comme Kleist, La Marquise d'O, ça m'a attiré vers des auteurs comme Melville, les nouvelles de Melville, ou les romans brefs comme Benito Cereno, par exemple, qui sont aussi, d'une certaine façon, des textes difficiles à classer. Et le personnage d'Octave, il me fait penser aussi à un objet qui apparaît dans un film de Romère, dans La collectionneuse, et c'est un objet étrange fait de lames de rasoir. Et l'interlocuteur essaye de le toucher et il se blesse. Le sang apparaît. Donc le personnage d'Octave est un personnage dangereux pour lui-même et pour les autres. Et dangereux pour le lecteur, parce qu'au fond, il met le lecteur aussi dans une certaine forme d'insécurité. Et c'est ce qui fait son charme.
C'était Personnage en personne, le 100e. La semaine prochaine, je parlerai de Youri Jivago, créé par Boris Pasternak dans Le Docteur Jivago.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Alain Joubert.
De ma vie, le paradis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
C'était un grand jeudi. Tous les jours.